Et vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 15h à Paris, 13h en temps universel, 9h à Caracas. Et c'est la dernière partie de RFI Midi consacrée à l'actualité du continent américain. Nous allons nous pencher sur un scandale de corruption qui frappe Haïti, plus précisément le Conseil présidentiel de transition. Trois de ses membres sont sur la sellette, scandale sur lequel la presse haïtienne revient. Nous irons aussi au Venezuela, où la chef de l'opposition appelle à manifester samedi pour dénoncer les fraudes qui ont permis, selon elle, la réélection de Nicolas Maduro à la présidence. Pour le moment, l'Assemblée nationale vénézuélienne a interrompu ses vacances pour aider Maduro à voter dès aujourd'hui toute une série de lois dont certaines sont considérées comme liberticides. Et puis notre reportage sera consacré aujourd'hui à la Bolivie où deux villes ont interdit l'industrie minière sur leur territoire pour préserver l'environnement. À suivre aussi le journal des Outre-mer avec Benoît Ferrand. Benoît, bonjour.
Bonjour.
Et à la une, la tempête tropicale Ernesto qui déverse des trombes d'eau sur la Guadeloupe.
L'archipel a été placé non pas en état d'alerte cyclonique rouge, mais de vigilance météo rouge. Le directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe nous expliquera tout à l'heure la subtile différence.
À tout à l'heure, Benoît. Et d'abord, le journal avec Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous.
C'est un rejet clair et net, rejet de l'Iran à l'appel de pays occidentaux à renoncer à ces menaces contre Israël.
Les autorités iraniennes affirment également qu'elles ne demanderaient pas l'autorisation pour riposter contre l'État hébreu qu'elle accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, il y a deux semaines. Les pays occidentaux qui craignent une attaque iranienne significative contre Israël, et cela dès cette semaine, pays parmi lesquels la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. La crainte d'une escalade régionale reste donc vive. Résultat, l'agence de notation Fitch abaisse la note d'Israël. La dette du pays passe de A+ à un simple A en raison précisément de la guerre à Gaza. Et même si la situation est sans commune mesure avec celle des territoires palestiniens, le conflit affecte l'économie israélienne. L'État hébreu devrait ainsi terminer 2024 avec les finances publiques dans le rouge, Justine Fontaine.
Selon Fitch, Israël devrait enregistrer un déficit public de 7,8% cette année. Les dépenses militaires pèsent sur les finances du pays. Si on ajoute à cela l'incertitude de la guerre, qui semble loin d'un dénouement, ou encore la crainte d'une escalade régionale, les agences de notation voient la dette israélienne comme de plus en plus risquée. Des notes plus basses, ça veut dire des emprunts plus chers pour les entreprises locales, déjà fragilisées par la guerre. D'abord, elles ont perdu de la main-d'œuvre, les soldats réservistes mobilisés dans l'armée israélienne, mais aussi les Palestiniens qui, pour la plupart, se sont vus retirer leur permis de travail en Israël. Cela pèse notamment sur l'agriculture ou la construction. Ensuite, les attaques des rebelles houthis en Mer Rouge, qui disent viser des bateaux en provenance et à destination d'Israël, perturbent les importations et les exportations du pays. En plus de ça, la Turquie a cessé le commerce avec Israël en mai. Résultat, le mois dernier, la Banque centrale d'Israël a revu ses prévisions de croissance à la baisse. Elle ne devrait pas dépasser 1,5% cette année.
Justine Fontaine, situation de plus en plus inquiétante en Grèce. Un feu de forêt hors de contrôle frappe la banlieue nord-est d'Athènes. Incendie qui a déjà fait une victime, quelques 700 pompiers sont mobilisés. Une aide européenne avec du matériel et des hommes est en train d'arriver dans la région pour endiguer les ravages des flammes.
Direction maintenant les États-Unis à présent, où Donald Trump est de retour sur X, anciennement Twitter.
Le candidat républicain à la présidentielle américaine a pris la parole sur ce réseau social et comme à son habitude, il n'a pas pris de pincettes. Interrogé par Elon Musk, le patron de X, Donald Trump, n'a pas hésité à désinformer pour s'attaquer à sa rivale à la course à la Maison-Blanche, la démocrate Kamala Harris. Il l'a tout simplement accusé d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire croire à une foule massive lors de son récent meeting dans le Michigan. Vérification faite, les images de ce rassemblement à l'aéroport de Détroit n'ont pas été modifiées, Grégory Genevrier.
C'est sur son propre réseau Truth Social que Donald Trump lance la rumeur. Qui a remarqué que Kamala Harris a triché à l'aéroport? La foule de 10 000 partisans n'existe pas. C'est de l'intelligence artificielle, écrit le candidat républicain. Il fait ici référence à ce meeting de sa rivale sur le tarmac de l'aéroport de Détroit mercredi dernier. Il ajoute même que Kamala Harris devrait être disqualifiée de la course à la Maison-Blanche à cause de ses fausses photos de foule. Sauf qu'en réalité, les images sont authentiques. Des photos prises par des agences de presse comme Reuters et l'AFP et des vidéos amateurs montrent bien la présence d'une foule massive. Côté démocrate, certains n'ont pas hésité à se moquer de cette fausse information partagée par Donald Trump. Cette foule générée par IA était vraiment bruyante. Mes oreilles viennent juste d'arrêter de bourdonner à cause de leur acclamation imaginaire, a ironisé la présidente du Parti démocrate dans le Michigan, Lavora Barnes.
Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI.
Et on en vient à cette inquiétude de l'ONU sur la situation au Venezuela, Stéphane.
Les Nations Unies dénoncent le climat de peur dans le pays, tout comme l'utilisation disproportionnée de la force. La mission d'observation de l'ONU pour les droits humains appelle à la fin immédiate de la répression dans le pays, ainsi qu'à l'investigation profonde des graves violations des droits humains qui ont lieu ces derniers jours. Dernier jour marqué, vous le savez, par le mécontentement des Vénézuéliens qui ne croient pas en la victoire de Nicolas Maduro à la tête du pays. Explication de notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol.
La mission internationale, issue du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, décompte 23 morts et 1260 personnes arrêtées en 10 jours à peine lors des opérations de répression post-électorale au Venezuela. Des détentions que les experts de la mission qualifient d'arbitraires, il n'y a pas eu d'enquête et ils exigent la libération immédiate des détenus. Manifestants, dirigeants et militants politiques, journalistes, défenseurs des droits, les profils sont divers, les modes d'arrestation également. Certains sont appréhendés dans la rue, d'autres chez eux, mais tous sont poursuivis pour des infractions pénales dites graves par la mission, conspiration ou terrorisme. Or, selon le communiqué des experts des Nations Unies, la plupart d'entre eux ont simplement exprimé leur rejet des résultats de l'élection présidentielle. La mission de détermination des faits a été créée en 2019 pour enquêter sur de possibles violations des droits humains commises par les autorités dans le pays depuis 2014, détentions arbitraires, tortures et exécutions extrajudiciaires. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Au Bangladesh, l'ex-première ministre déchu visé par une enquête pour meurtre.
Après 15 ans à la tête du pays, Sheikh Hasina a dû fuir après un soulèvement étudiant contre son gouvernement. Désormais, deux étudiants sont membres de ce nouveau gouvernement intérimaire dans le pays. Mouvement qui a certes fini par attirer des millions de Bangladais dans les rues, mais il a surtout commencé par un modeste rassemblement dans la plus vieille université du pays. Nicolas Roca, envoyé spécial de RFI à Dhaka, est allé rencontrer l'un des fondateurs de ce qui est devenu une révolte historique. Reportage.
Des professeurs qui discutent, des étudiants qui mangent, assis sur l'herbe, sans les fenêtres brisées et les graffitis qui recouvrent le portrait du père de Sheikh Hasina. Impossible d'imaginer que c'est ici, en bas d'un bâtiment grillagé, qu'une révolution a débuté. Rifat Saïd, l'un des coordinateurs du mouvement, était présent à la première réunion.
C'est là qu'on a lancé le mouvement. Tout a commencé de manière ordinaire. Quand la haute cour a annulé la réforme des quotas, nous avons commencé les manifestations ici, depuis la bibliothèque centrale. Au début, on n'était que 5 et puis c'est devenu de plus en plus grand.
Ils sont une dizaine autour de lui à venir partager leurs souvenirs, comme Abdullah Mohamed Ruel.
Quand l'ancienne première ministre nous a appelés, nous, les étudiants, des fils de collaborateurs contre l'indépendance, les gens ont détruit les couloirs et sont descendus dans les rues.
Mi-juillet, le mouvement s'est intensifié et la répression avec.
Couvre-feu, horde de tirer à vue, charges policières.
Rifat Rachid a été kidnappé, drogué avant d'être relâché 5 jours plus tard. Paradoxalement, il estime que la réponse violente du pouvoir a renforcé la contestation.
Quand on a commencé juste ici, on ne pensait pas aller aussi loin, ce n'était même pas notre intention. Mais quand le gouvernement a commencé à mener un massacre brutal, les gens nous ont rejoints en nombre. On peut vraiment appeler ce qu'on vit une nouvelle indépendance.
Les deux étudiants devenus membres du gouvernement intérimaire ont eux aussi lancé la contestation depuis la bibliothèque de cette université. Nicolas Roca, Dhaka, RFI.
Et puis un petit mot de sport avec du cyclisme, précisément le Tour de France Femmes. Deuxième étape qui s'est déroulée ce matin avec une arrivée à Rotterdam. C'est aux Pays-Bas. C'est la maillot jaune Charlotte Kohl qui s'est imposée au sprint tout à l'heure. Elle conserve donc sa tunique de leader. En ce moment, c'est la troisième étape contre la montre d'un peu plus de 6 km dans les rues de Rotterdam.
Merci Stéphane Genest pour ce journal.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Florence Tomazo.
Et il est 9h09 à Port-au-Prince et on démarre ce journal d'Haïti et des Amériques avec la revue de presse. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
À la une de la presse américaine, ce scandale de corruption en Haïti peut être celui de trop.
Oui, à lire le journal américain de Miami Herald, Florence, celui-ci menacerait carrément la transition. Car les trois mis en cause sont des membres du conseil présidentiel, l'organe chargé de cette transition. Selon le récit qu'en fait le quotidien de Floride, l'extorsion présumée s'est déroulée pendant 30 minutes dans la chambre 408 de l'hôtel Royal belle oasis de Pétionville, à l'est de Port-au-Prince. Là, par un après-midi étouffant du mois de mai, trois membres du conseil ont rencontré le directeur d'une des banques commerciales publiques du pays et lui auraient demandé de payer 100 millions de gourdes haïtiennes, soit environ 758 000 dollars, s'il voulait conserver son emploi. Le conseil était en plein processus de sélection du nouveau conseil d'administration de la banque. Les accusations sont graves, elles sont formulées par le président de la Banque nationale de crédit lui-même, Raoul Pierre-Louis, devant l'unité anticorruption du pays et aussi par courrier au Premier ministre Gary Conille en demandant un renforcement de la sécurité pour lui et sa famille.
Les accusés, eux, nient les faits à blanc.
Le pays est habitué aux faits de corruption et aux accusations de ce genre, mais souligne Miami Herald, même les soupçons obscurcissent désormais toutes les décisions prises pour pourvoir les postes gouvernementaux. Le conseil était en train de sélectionner les nouveaux administrateurs. Ces nominations sont scrutées de près car elles sont un indicateur important de la qualité de la gouvernance. Les partis dont les membres sont mis en cause ont défendu leurs dirigeants. D'autres formations appellent à la démission des mis en cause et à une enquête interne pour préserver la crédibilité du Conseil. Gary Conille, lui, garde le silence sur cette affaire, de même que le président du Conseil. Le nouveliste y voit une manière de gagner à l'usure, sauf que c'est que d'après les deux membres observateurs au Conseil présidentiel interrogés dans le journal, ils estiment que les allégations de corruption risquent d'altérer la confiance de la population envers ses dirigeants.
Abla, on prend maintenant la direction du Chili, où les Haïtiens constituent la quatrième communauté d'étrangers, la plus importante derrière les Vénézuéliens, les Péruviens et les Colombiens. Selon les chiffres les plus récents du Service national des migrations, le nombre d'Haïtiens qui vivaient dans le pays fin 2022 s'élevait à 185 000, une population qui n'a fait qu'augmenter après le tremblement de terre de 2010 qui avait frappé le territoire, mais qui stagne depuis quelques années. En cause, des difficultés pour obtenir des papiers, une intégration pas toujours facile, ou encore l'appel du rêve américain plus attractif que la ville chilienne. À Santiago, le reportage de Naila Derouane.
Dans le centre de la capitale, aux abords de l'ambassade haïtienne, plusieurs dizaines de personnes font la queue et attendent leur tour pour divers rendez-vous administratifs. Un petit groupe de femmes haïtiennes vend des sandwichs et juste à côté, un jeune homme s'est installé avec une imprimante et propose des services d'impression de documents. Garvins, dans la file, attend son rendez-vous. Cela fait 8 ans qu'il habite au Chili et 6 qu'il travaille comme agent d'entretien. Il ne parle pas très bien le français et préfère s'exprimer en espagnol, langue qu'il a apprise ici en arrivant.
Je suis venu chercher une vie meilleure. Il y a trop d'insécurité en Haïti. Je suis ici au Chili pour avoir quelque chose de mieux et prendre soin de ma famille.
Sa famille, qui est restée en Haïti et à qui il envoie de l'argent, Garvins souhaiterait la faire venir au Chili. Mais pour cela, il lui faut des documents pas faciles à obtenir.
Le certificat de naissance, par exemple, il faut aller le faire légaliser là-bas, en Haïti. Mais rien que ça, c'est compliqué à cause de l'insécurité. Passer d'une rue à l'autre, c'est parfois difficile.
Et les galères administratives ne se limitent pas au certificat de naissance. Il y a aussi
le certificat antécédent pénal.
Autrement dit, le casier judiciaire, document indispensable pour se régulariser et obtenir le statut de résident permanent au Chili pour ensuite espérer avoir un contrat de travail. Mais là encore, il y a des freins pour les Haïtiens. C'est ce qu'explique Ménès. Il vit au Chili depuis 7 ans.
En Haïti, on n'a pas un système digital comme les autres pays. On a un système archaïque. Maintenant, on a un État failli. Donc, les institutions en Haïti ne fonctionnent pas. C'est difficile d'avoir ce document et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Haïtiens ne peut pas obtenir son résidence définitive et d'autres documents.
Et puis, il faut aussi s'adapter à ce pays si loin et si différent, raconte-t-il.
C'est pas beaucoup, mais un petit peu du racisme, tout ça. C'est difficile d'intégrer complètement quand on a une autre culture, quand on a une autre langue, une autre réalité. Ça prend du temps pour s'intégrer dans la nouvelle communauté. C'est la raison pour laquelle beaucoup des Haïtiens ont quitté le pays.
En 2021, le Chili a enregistré plus de départs que d'arrivées d'Haïtiens sur son sol. Mais difficile de savoir combien exactement sont partis, car certains passent les frontières terrestres en contournant les autorités migratoires.
Allô?
Willy, un jeune Haïtien de 25 ans, a quant à lui quitté le pays en bus l'année dernière, après 6 ans passés dans la capitale chilienne, après avoir obtenu un diplôme en gestion d'entreprise et après avoir travaillé plusieurs années dans un hôtel à Santiago.
Le problème ici, c'est que pendant tout ce temps au Chili, je n'avais pas la résidence permanente. Ma demande de visa est refusée. Et là, j'ai dit non, je devrais prendre un autre chemin.
Il décide alors de se rendre aux États-Unis.
Les États-Unis, pour beaucoup, c'est la terre promise. J'ai pris la décision de quitter le Chili parce que je voudrais pas simplement vivre une nouvelle aventure, mais en recherche d'opportunités meilleures.
Après 18 jours de voyage en bus et à pied, Willy a réussi à rejoindre les États-Unis. Il vit désormais à Boston et travaille comme bagagiste dans un hôtel et reconnaît que pour l'instant, ce n'est pas forcément plus facile qu'à Santiago.
Même si tu gagnes de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent ici, mais tout est plus cher. Le loyer, les fringues, la locomotion.
Jusqu'à présent, le jeune homme est plutôt content de sa décision d'avoir quitté Santiago, même s'il avoue connaître d'autres Haïtiens aux États-Unis qui, eux, en revanche, regrettent d'être partis du Chili. Naïla de Rouané, Santiago, RFI.
Et on quitte le Chili pour le Venezuela où le nombre de morts dans les manifestations s'élève désormais à 25 et plus de 1000 personnes arrêtées. La mission d'observation des Nations Unies pour les droits humains appelle à la fin immédiate de la répression dans le pays ainsi qu'à une enquête approfondie sur les graves violations des droits humains qui ont suivi les élections contestées du 28 juillet dernier. Parmi la diaspora, on se démène pour accueillir les Vénézuéliens qui fuient le pays. Eric Zuleta est secrétaire de l'association Solidarité Venezuela à Madrid. Il demande aux autorités locales une accélération de l'octroi de visas de travail aux Vénézuéliens pour leur permettre de se réfugier en Espagne.
En Venezuela, hay una guerra. Una guerra del Estado contra el pueblo.
Au Venezuela, il y a une guerre de l'État contre le peuple. On ne peut pas vivre là-bas, le salaire minimum est de 3,60 $. Tu travailles et tu ne gagnes que 3,60 $. Il n'y a rien à manger, pas de transport, l'électricité est coupée tous les jours, et des fois on peut rester 3 jours sans lumière. Il n'y a pas de wifi, pas d'eau. C'est horrible là-bas, c'est un pays invivable. Il faut bien chercher des solutions pour répondre aux besoins de ta famille, de tes enfants. Alors les Vénézuéliens choisissent de partir, et en arrivant en Espagne, il faut demander l'asile politique à l'État espagnol. Moi, je l'ai obtenu quand je suis arrivé en 2017. Ils se sont occupés de mon cas immédiatement. Mais aujourd'hui, ils ne répondent même plus au téléphone. C'est pour cela que nous demandons des mesures spéciales au vu de la situation grave que traverse le Venezuela. Tout ce qui se passe là-bas va provoquer l'exil de beaucoup de personnes. Et une grande partie va venir ici. Mais combien de temps peut tenir un Vénézuélien en Espagne s'ils mettent 2 ans à lui donner un permis de travail? Il faut faire quelque chose, parce que l'argent, il n'y en a pas. Donc il va commencer à se diriger vers des voies illégales pour travailler, sans papier, ce qui est interdit ici sous peine de recevoir une grosse amende. Mais tu ne peux pas te laisser mourir de faim. Il faut bien faire quelque chose pour survivre. C'est pour cela qu'on appelle l'État espagnol à accélérer les procédures.
L'État espagnol, de que agilice la cita, agilice.
Et alors que les réseaux X et Signal sont déjà bloqués dans le pays, le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle réglementation des réseaux sociaux.
Oui, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la suspension des vacances parlementaires pour discuter du paquet de lois visant à réglementer les réseaux sociaux, relais Ultimas Noticias, également dans le viseur du pouvoir, les ONG assimilées au fascisme. Dans presque le monde entier, elles sont réglementées. Nombreuses sont celles qui sont une façade pour financer des actions terroristes, justifie le dirigeant de l'Assemblée. La discussion sur ces projet de loi doit donc avoir lieu aujourd'hui. Les dirigeants citent l'exemple de l'Europe qui a réglementé l'utilisation des réseaux sociaux, sauf que les intentions ici sont clairement de faire taire l'opposition à qui le régime attribue l'origine des violences et qu'il qualifie de fasciste. Nicolas Maduro, hier à la télévision, a encore insisté sur le fait que la dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, avait ordonné le meurtre et croit qu'avec le soutien d'Elon Musk, elle va s'en prendre au pouvoir politique, rapporte le journal en ligne Tal Cual Digital.
RFI, The World's Voices. Et on part aux États-Unis. Le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre prochain, Donald Trump, ne risquait pas d'être bousculé hier par le fondateur de Twitter. Elon Musk l'a interviewé comme aurait pu le faire un fan. Même le problème technique qui a retardé la transmission de l'interview sur X trouvait une explication flatteuse dans la bouche d'Elon Musk.
Cette attaque massive montre bien qu'il y a une vraie opposition au fait que les gens puissent écouter ce que le président Trump veut dire. Il y a des tentatives de censure.
Abla, la presse revient sur le réchauffement des relations entre les deux hommes.
Oui, ils se sont tant détestés. Cette conversation marque un tournant remarquable pour le New York Times. Musk avait critiqué Trump pendant des années, mais à mesure que sa colère grandissait contre les démocrates au sujet des droits des transgenres, de l'immigration et du traitement réservé par l'administration Biden à Tesla, son groupe. Il a fini par soutenir Trump peu de temps après sa tentative d'assassinat le mois dernier, scellant cette nouvelle alliance en cofondant un super PAC destiné à aider les efforts de la campagne de Donald Trump. Trump, de son côté, a adouci ses diatribes contre les véhicules électriques, en particulier ceux produits par la firme de Musk, Tesla, après les avoir critiqués pendant des années, rappelle le New York Times. Pendant une grande partie de la discussion hier, Musk s'est concentré sur des sujets qui lui semblaient faciles à aborder, comme l'immigration clandestine, et a permis à Donald Trump de faire un flot de fausses déclarations, donnant à la conversation certaines des caractéristiques des meetings de campagne de Trump, résume le Washington Post.
RFI à La Paz, 106.9 FM.
Et direction la Bolivie. La région amazonienne du pays est envahie par l'industrie minière. Les coopératives investissent les rivières à la recherche d'or, polluant les eaux et les alentours. Il existe pourtant deux exceptions, les petites villes voisines de Palos Blancos et Alto Beni, qui ont adopté deux lois qui interdisent l'industrie minière sur leur territoire, ce qui leur permet de continuer à produire de nombreux produits agricoles de manière agroécologique. C'est un reportage de Nils Sabin.
Un homme torse nu, la peau bronzée, avec sur l'épaule un régime entier de bananes et une machette. Impossible de rater cette imposante statue qui trône sur un rond-point, sur la route principale qui mène au centre de Palos Blancos. D'habitude, dans les bassins miniers des montagnes comme Potosi et Oruro, les statues rendent hommage aux mineurs, mais ici, la municipalité préfère célébrer la productivité agricole. Ramiro López Chávez, secrétaire général municipal de Palos Blancos.
Nous sommes une commune très productive, avec une grande diversité de cultures. Des bananes, du cacao, des agrumes, du manioc, une infinité de légumes. C'est une bénédiction de vivre à Palos Blancos, dans cette région où tout pousse.
Chaque semaine, des camions remplis de fruits et légumes partent de cette zone au climat subtropical en direction de la ville de La Paz, à 250 km. C'est pour protéger ce modèle productif que Palos Blancos et la commune voisine Alto Beni ont adopté en 2021 deux lois municipales très spéciales. Elles font des deux villes des territoires agroécologiques, productifs et sans activité aux pollutions minières.
Dans d'autres communes, il y a déjà eu de gros problèmes de déformation des rivières, de contamination au mercure, de malformation des poissons. Nous ne voulons pas de ça ici. C'est une des grandes préoccupations de la population.
En 2017, une coopérative minière entre illégalement sur le territoire de Palos Blancos pour y chercher de l'or. Après plusieurs jours de mobilisation populaire, les mineurs évacuent finalement les lieux. C'est cette menace concrète, présente dans plusieurs villes et villages proches, qui pousse les deux municipalités à adopter des lois anti-industrie minière. L'enjeu économique est de taille car la région accueille également la centrale de coopératives productrices de cacao El Ceibo, une organisation de 48 coopératives fondée en 1977 qui vend du chocolat dans toute la Bolivie et exporte du cacao en France, en Suisse, aux États-Unis et au Japon. Des pays aux clients très exigeants, comme l'explique Jesús Tapia, producteur et vice-président de la centrale.
La première chose qu'ils nous demandent, c'est que le cacao ne soit pas contaminé et qu'il soit sans pesticides. On ne peut pas en utiliser ni élever des animaux trop près des parcelles.
Du cacao bio, mais pas seulement.
Nous devons aussi travailler en agroforesterie. La monoculture de cacao est interdite. Et en plus de produire en bio, nous devons éviter la dégradation des sols pour qu'ils gardent leur fertilité.
Dans les parcelles, les cacaoyers côtoient les bananiers ou des arbres fruitiers amazoniens comme le coupoissou ou la chachairu. Ce système productif est l'une des clés du succès international d'El Ceibo, dont le cacao compte différentes certifications prouvant sa qualité et son mode de production respectueux de l'environnement. Des certifications qui seraient immédiatement suspendues si les rivières alentours venaient être contaminées par des coopératives minières.
C'est une menace importante. Si les mineurs s'installaient ici, ce serait une catastrophe pour nous, car nous vivons du cacao, c'est notre économie. Et au-delà du cacao, tous les produits ici sont bio, que ce soit les agrumes, les bananes ou les ananas.
En début d'année, les deux lois municipales sont passées à un niveau départemental grâce à un vote de l'Assemblée législative du département de La Paz, ce qui renforce la protection des producteurs et prouve que l'initiative de Palos Blancos et d'Alto Beni est soutenue au-delà de leur territoire. Les maires des deux communes rassemblent déjà des soutiens pour l'étape suivante, déposer une proposition de loi à l'Assemblée plurinationale de Bolivie pour que leur loi anti-industrie minière ait une reconnaissance nationale. Nils Sabin, de retour de Palos Blancos, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et voilà, on va retrouver nos confrères de Outre-mer. La première, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
La tempête tropicale Ernesto déverse et va déverser des trombes d'eau sur la Guadeloupe.
Elle a été baptisée hier soir et l'archipel a été placé en état, non pas d'alerte cyclonique rouge, mais de vigilance météo rouge pour forte pluie. Et ce n'est évidemment pas tout à fait la même chose. Comme l'expliquait en direct ce matin sur les ondes de la Première, le directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe, Franck Dorge. Il répondait en direct donc aux questions de Josiane Champion.
Actuellement, on a une pluie continue qui a commencé à 4 heures du matin, qui va s'intensifier, qui devrait se prolonger jusqu'à 14 heures, mais très certainement jusqu'à la fin de la journée. En fait, le phénomène météorologique est passé, il est maintenant au nord de la Guadeloupe, mais il s'intensifie. Donc ça veut dire que l'arrière du système est attiré dans la trajectoire de la tempête qui va progressivement, en remontant vers le nord, se transformer en ouragan, très certainement. Et donc, les pluies vont s'intensifier. Nous, on n'aura plus ce phénomène de vent violent, qui est normalement, c'est quand on a une alerte cyclonique, c'est quand il y a des vents violents. Là, nous n'avions pas de vent violent. Donc, c'est bien une vigilance rouge, forte pluie, qui est attendue sur toute la journée. On préconise d'éviter les déplacements, de privilégier le télétravail. En revanche, si on doit se déplacer, on se déplace. Et si on est à proximité de son commerce, on peut ouvrir son commerce. Donc il n'y a pas d'interdiction d'ouverture de commerce ou d'interdiction de déplacement.
Située au sud de la Guadeloupe, la Martinique devrait, elle, être en principe moins impactée par le passage d'Ernesto. Mais la pluie, le vent et la houle seront tout de même bel et bien d'actualité ce mardi. Comme l'explique la prévisionniste de Météo France Martinique, Eva Merceron.
La Martinique reste vraiment à l'écart des vents les plus forts du phénomène. Hein. Donc ça, c'est la petite bonne nouvelle, je dirais, dans cet épisode. Néanmoins, avec Ernesto qui circule sur les Petites Antilles, qui est donc toujours une tempête tropicale faible ce matin, il faut s'attendre à une activité pluvieuse marquée sur notre territoire français. Déjà, au cours de l'heure précédente, on a observé des cumuls de pluie localement importants, de l'ordre de 40 à 50 mm sur le nord de la Martinique, plutôt 30 mm sur les hauteurs de Fort-de-France. Et cette activité pluvieuse va perdurer, au moins pour la Martinique. Et localement, on pourrait vraiment avoir de fortes quantités de pluie. Donc la prudence est de mise. De plus, avec ces averses localement fortes, on peut avoir des rafales de l'ordre de 60, 70, 80 km/h pour les plus fortes. Ce vent est orienté plutôt vers le sud. Donc une dégradation de l'état de la mer est également attendue tout au long du littoral caraïbe.
Voilà, avis de mauvais temps, on l'aura compris, sur la Martinique et la Guadeloupe aujourd'hui. Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand.
Uma foto estampada na avenida, uma foto publicada no jornal, uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz...
Et on écoute le musicien brésilien Caio Prado qui sera en concert ce soir à Rio de Janeiro.
Não recomendado à sociedade. Sociedade, a placa...
Et voilà, c'était le musicien brésilien Caio Prado qui est donc en concert ce soir à Rio de Janeiro. C'est la fin d'RFI Midi. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été à notre écoute. Merci à Vincent Biteau à la réalisation et à Benoît Almeras à la coordination. Restez sur la Radio du Monde. Les programmes se poursuivent, l'actualité continue.
Ce mardi sur RFI.
Comment un ver marin se révèle donneur de sang universel ?
Autour de la question... Caroline Lachowski.
250 fois plus petite qu'un globule rouge, l'hémoglobine de ce ver de sable arénicole délivre 40 fois plus d'oxygène dans le sang que l'hémoglobine humaine. Une formidable découverte bio-inspirée qui pourrait bien révolutionner la chirurgie.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.